حياكم الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، donc inshallah un nouveau cours sur les assises du Ramadan, Majalis Shahr Ramadan, avec notre Cheikh Al-Usaymin, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc ce sont des assises profitable ce sont des assises très profitables car elles sont faites par excusez-moi. C'est comme je viens de recevoir un message qui m'a un petit peu choqué. Donc c'est pour ça que j'ai été déconcentré, complètement déconcentré. En réalité, le portable, il faut le jeter dans un placard et ne pas y toucher pendant les cours. Donc, ces assises de notre Cheikh Abdelazak, plutôt Cheikh Al-Othaymin Al-Rahimah, comme vous le savez, c'est un de nos grands savants de la Sunna. Et les savants de la Sunna, ils ont ce genre de cette clairvoyance donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a un contenu que nous visionnons, ou nous lisons, nous abordons en surface. Mais sachez que lorsque c'est un savant, il y a plein de choses profitables qui font que même si on les voit pas, et ben, alors je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. C'est valable, l'exemple qu'on va donner, c'est valable, et ben, pour le Ramadan également. Un de nos frères, Jazallahu Khair, nous a dit, il y a peu de temps, à l'institut, que les cours avaient un effet bénéfique, c'est-à-dire comme si c'était automatique, un effet bénéfique automatique tiré de, ça devient comme des bonnes habitudes, des bons comportements, etc. Alors, c'est la même chose pour les cours de Cheikh Al-Usaymin, rahimahullah. On ne voit peut-être pas la clairvoyance, l'éducation, le comportement et la science en elle-même concernant le jeûne. Mais ne vous inquiétez pas, le savant, avec les savants, c'est quelque chose. Taïb. Cette sixième assise, Majalis Sadis, voilà, Majalis Sadis, fi aqsam innas, fi siyam. Donc les différentes, la sixième assise sur la subdivision concernant les gens par rapport aux jeunes, les différentes catégories de personnes pendant le jeûne, si vous voulez. Donc, toujours comme à l'habitude, hein, la l'introduction de notre savant Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, l'introduction de notre savant, et pour respecter la parole du Cheikh, le contenu du Cheikh ici, on va le lire, mais on n'aura pas le temps de traduire Inch'Allah Ta'ala, puisque l'important, c'est toujours de revenir au début du cours. L'introduction, c'est juste une introduction, comme si on disait « Alhamdulillah, inahmaduhu, anasta'inuhu, anastaghfiruhu ». C'est ça l'introduction. Sauf que là, le Cheikh, il n'y a pas de mal à faire d'autres introductions, et c'est ce que fait Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Alors, Alhamdulillah, الذي أدقن بحكمه أو بحكمته ما فطر وبنى وشرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا ويجزل العطايا لمن كان محسنا كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أحمده على فضائله سرا وعلانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها فوزا الفوز بدار النعيم والهنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفع فوق السماوات بدنا صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القادم بالعبادة راضيا بالعنى الذي شرفه الله بقوله إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Compagnon du prophète Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'ils étaient dans la grotte, où Allah Ta'ala, le prophète lui dit, ne t'inquiète pas, certes, ne sois pas triste, certes, Allah Ta'ala est avec nous. Wa ala Umar al-Mujaddi fi dhuhur al-Islam fama dha'ufa wala wana wa ala Uthman alladhi radiya bil qadri wa qad halla في الفناء فناء وعلى علي القريب في النصب وقد في النسب وقد نال المنى وعلى سائر آله وأصحابه الكرام الأمانة والسلام تسليما وسلم تسليما. Et nous arrivons à la parole de notre Cheikh Al-Uthaymeen qui enchaîne directement. طيب. إخواني, oh mes frères, nous avons vu dans le troisième cours, que le jeûne du Ramadan fut légiféré en deux étapes, puis son obligation fut instaurée définitive. Définitivement, et les catégories de personnes sont au nombre de 10. إخواني, سبق في مجلس الثالث أن فرض الصيام كان في أول الأمر على مرحلتين ثم استقرت الأحكام الصيام فكان الناس فيها أقساما عشرة. Donc par rapport aux jeunes, on nous dit que les gens se divisent en 10 catégories. On va parler, Inch'Allah Ta'ala, de la première catégorie. Alors ça, c'est du ilm. Ça, c'est du ilm. Ce sont des masa'il, des questions religieuses concernant le ramadan qui sont importantes. C'est du ilm. Donc ce sont des connaissances que l'on doit avoir, inshallah ta'ala, concernant le jeûne. Et si Cheikh Al-Uthaymeen, en début d'enseignement concernant le jeûne, nous les mentionne, c'est que ce sont des questions religieuses que l'on doit connaître en début d'enseignement. L'étudiant débutant concernant la science du jeûne, chapitre du jeûne, doit connaître ces choses-là. Non. Donc la première catégorie, le musulman pubère doué de raison, résident, capable de jeûner et dispensé de tout empêchement. Une telle personne est tenue de jeûner le mois de Ramadan dans son mois imparti en vertu des textes du Coran et de la Sunna et du consensus des savants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Shahru Ramadan alladhi unzila fi القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la guidée et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. C'est plutôt verset 185, Sourate Al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeûnez lorsque vous apercevez le nouveau croissant lunaire. Jeûnez lorsque vous apercevez le nouveau croissant lunaire. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا متفق عليه وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على من وصفنا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeûnez lorsque vous apercevez le nouveau croissant lunaire. Tous les musulmans sont unanimes pour affirmer que le jeûne est obligatoire pour toute personne qui réunit les conditions que nous avons citées. Alors une faïda pour vous. Ici, le chef Cheikh Al-Uthaymeen, et au fur et à mesure de cet ouvrage, il va nous enseigner des fondements. Sachez que ces fondements, si vous les avez compris et assimilés, vous pourrez répondre à beaucoup de questions, les questions basiques que se posent la plupart des gens concernant le jeûne. Par exemple, si vous vous souvenez, un chapitre précédent où on a parlé de la lune, on n'a pas eu le temps de faire un gros détail. On va parler de celui qui est témoin pour voir la lune. Eh bien, si vous avez assimilé le chapitre, un minimum, malgré qu'il y a des divergences, vous serez capable de répondre à quel moment on doit jeûner, quel jour on doit arrêter, quel jour on doit commencer, à quel moment, qui est-ce qui voit la lune, etc. Ça, ce sont des questions basique que le musulman débutant, normalement, il apprend, hein, on lui enseigne, et déjà dans un premier temps, il est capable de répondre à ces petites questions des gens du commun, hein, que tous les ans, les mêmes questions qui se répètent. Est-ce que, si c'est l'Arabie Saoudite qui a vu la lune en premier, est-ce qu'on doit déjeuner ou est-ce qu'on doit attendre, parce que nous, on vit en France, que ce soit quelqu'un en France qui ait vu la lune. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on apprend ici avec Cheikh Al-Uthaymeen, sachant qu'il y a une grosse divergence hein, sur ce sujet. Il y a des savants qui disent « tu jeûnes avec ton pays ». Il y en a d'autres qui disent « c'est le premier pays musulman qui l'a vu ». Donc, voilà. Donc, ce n'est pas négligeable. Hein. Ici, également, on apprend une base, un fondement, des fondements qui sont les personnes qui sont sollicitées, plutôt qui sont pour qui le jeûne est obligatoire. Et de ce fait, on verra donc, on apprendra également en parallèle pour qui le jeûne n'est pas obligatoire. Et ça, c'est aussi des questions qui reviennent tout le temps, tous les ans. La femme qui allaite, la femme qui a peur pour le bébé, celui qui est jeune, qui a 7 ans, est-ce qu'il doit faire le ramadan? Toutes ces questions-là. Ça, normalement, avec les informations, les enseignements de Cheikh Al-Uthaymeen, on aura déjà une base. N'hésitez pas, à la fin du cours, si vous avez des questions, si on peut y répondre, on y répond. Et comme on ne connaît pas tout, si on ne peut pas, on ira chercher. On vous donne la réponse le lendemain. Si on oublie, n'hésitez pas à réitérer parce que on oublie. Hein. On oublie. Taïb. Donc, cette première catégorie, le musulman pubère, doué de raison, résident, capable de jeûner et dispensé de tout empêchement. Une telle personne est tenue de jeûner le mois de Ramadan dans son mois imparti en vertu des textes Qur'an ou As-Sunnah. On a donc mentionné le verset du Qur'an et ici on est en train de continuer avec le prophète alayhi salatu wassalam, jeûnez lorsque vous apercevez le nouveau croissant lunaire. Tous les musulmans sont unanimes pour affirmer que le jeûne est obligatoire pour toute personne qui réunit les conditions que nous avons citées. Alors, ces conditions, on les a vus dans le titre, musulmans, parce que je vous donnerai des fawaïd sur le mécréant, concernant le mécréant à la suite. Donc, il faut qu'il soit musulman, il faut qu'il soit pubère, il faut qu'il ait son aql, c'est-à-dire sa raison, et il faut qu'il soit résident, ça veut dire quoi? Ben, qu'il ne soit pas voyageur, parce que si on est voyageur, ce n'est pas obligatoire de jeûner. Et qu'il soit capable de jeûner et dispenser de tout empêchement. Capable, c'est-à-dire la capacité, et les empêchements, c'est la maladie et d'autres choses qu'on verra dans le détail. Le jeûne n'est pas obligatoire pour le mécréant. Il n'est pas accepté de sa part car il n'est pas concerné par cette adoration. S'il se convertit durant le mois de Ramadan, il n'aura pas à rattraper les jours précédents en vertu de la parole d'Allah Ta'ala. Donc avant de mentionner la parole d'Allah Ta'ala, le mécréant. Il y a une question religieuse qui est soulevée ici. Alors, le mécréant, face au jeûne du Ramadan. Ça, c'est déjà une question religieuse. Mais ensuite, on ne doit pas s'arrêter là. Concernant les fawaïd, c'est le musulman, plutôt le mécréant, face à l'islam carrément, à toutes les adorations. Là, ici, on est dans un contexte spécifique, particulier, où on nous parle du mécréant face au jeûne. Mais en réalité, pour aborder ce sujet, on est obligé de parler du mécréant face à tout l'islam. Vous allez voir pourquoi. Concernant le mécréant et le jeûne, le siyam, il y a une divergence entre les savants. Il y a des savants qui disent que le mécréant, il est appelé à jeûner comme il est appelé à toute la religion. religion, donc à toutes les adorations, à tous les piliers. C'est pour cela qu'il ne faut pas lui servir à manger pendant la journée du Ramadan. Il y a d'autres savants qui disent, les questions étaient posées aux savants, hein, pour ceux qui ont des restaurants. Il y a d'autres savants qui disent, tu peux laisser ouvrir ton restaurant et servir les koffars, car ils ne sont pas appelés mukhatibin, appelés à la législation d'Allah ou Ta'ala. Donc, il y a une divergence. Et la réponse, est-ce qu'on nourrit les koufars pendant le ramadan ou pas, elle sera en fonction de quelle position on a, quelle position de savant on a. Si on a la position qu'ils sont appelés à l'islam, ils sont appelés au jeûne, le jeûne leur incombe, comme toutes les adorations leur incombent, ou est-ce qu'on aura la position que non, ils ne sont pas concernés par la législation de l'islam. Ça, c'est une grosse faïda, ça vous aidera à comprendre pourquoi vous voyez certains musulmans qui ont des supermarchés ou qui ont des restaurants ouverts, ils ont pris cette position. Et qui servent les koufars toute la journée, etc. Donc, on a déjà expliqué, hein, le comportement face à la divergence. Chacun a sa position, doit se respecter. Si toi, tu as un commerce et tu as la position que moi, je ne sers pas les koufars, eh bien, tu ne les sers pas et tu respectes ton frère qui, lui... Nous, notre position, c'est qu'on ne les sert pas pendant le ramadan. Voilà la position qui nous convainc. Wallahu a'lam. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, nous dit, le jeûne n'est pas obligatoire pour le mécréant, il n'est pas accepté de sa part, car il n'est pas concerné par cette adoration. Donc, si Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit ça, c'est qu'il a la position que le mécréant, n'est pas concerné par toutes les adorations, en fait, Wallahu a'lam. Donc, il n'est pas concerné par le jeûne. S'il se convertit durant le mois de Ramadan, il n'aura pas à rattraper les jours précédents. Allah Ta'ala, il pardonne tout ce qu'il y a avant l'islam. Il pardonne également à celui qui se convertit. Il pardonne également à celui qui fait la hijra. Il pardonne également à celui qui fait le pèlerinage. Trois causes pour être pardonné tout ce qu'il y a avant. Ça, c'est une faïda également. Au passage, il n'aura pas à rattraper les jours précédents en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, une faïda concernant le pèlerinage pour les sœurs, pour les femmes. Sachez que le pèlerinage pour la femme, c'est son djihad. C'est le djihad de la femme, comme les savants l'ont dit, c'est le pèlerinage. Le djihad, c'est quoi? C'est la lutte dans le sentier d'Allah. Pour la femme, c'est de faire son pèlerinage. De faire le pèlerinage. Donc, pour ceux qui en ont la capacité et les moyens, je vous conseille, c'est un conseil, hein, en tant qu'enseignant et grand frère, je vous conseille vivement de le faire. Tant que vous avez la santé, les moyens financiers, etc. Et si vous n'avez pas les moyens financiers, demandez à Allah, il vous donnera. Quand on a envie d'aller quelque part, on a la niya, on a la sincérité, on a vraiment envie, mais on ne peut pas demander à Allah. Allah, il va vous ouvrir une porte de là. Wa mayyat taqillah. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, et celui qui craint Allah, Allah lui ouvrira une porte de là où il ne s'y attendra pas, il lui rétribuera, il lui donnera sa subsistance de là où il ne s'attendait pas. Wallahi, une année, moi, je ne m'y attendais même pas. Je ne m'y attendais pas. Comme ça m'est tombé dessus. Quelqu'un de mes élèves qui me dit je t'offre une omara. On t'offre, moi et ma famille, on a décidé et on t'offre une omara. Donc ça se refuse pas, hein. Ça se refuse pas. Et voilà, on a profité, on est parti, on a fait une omara. Et on n'avait pas du tout les moyens de faire une omara, hein. Pas du tout. Donc voilà. Surtout, mashallah, tayyib, inshallah, avec plaisir, Afrique. Surtout, barakallahu fikoum. Surtout. Là, cette époque, aujourd'hui, avec le virus, tout ça et tout. Il paraît qu'ils ont fait une loi. Le Hajj donc sera interdit aux mineurs. Et il sera également interdit aux plus de 60 ans. Donc profitez-en. Hein. Parce qu'on ne sait pas, peut-être demain, ils vont interdire le Hajj au moins de 40 ans, ou je ne sais pas. Tout est possible. Donc, ceux qui en ont la possibilité, vous voulez vous faire pardonner tout ce qu'il y a eu avant, vous voulez redevenir, comme on dit, comme un bébé, etc. Qu'Allah vous ouvre des portes, profitez-en. Tayyib. Alors, où est cette parole? Je ne l'ai pas ici. Vertu de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les textes quant à la sunna au consensus, Allah ta'ala dit, on l'a dit, en vertu de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit: قل الذين كفروا إن تنتهوا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب. Dis à ceux qui ne croient pas qu'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. طيب. En vertu également de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc non, plutôt, si le converti durant la journée, il devra s'arrêter, s'il se convertit durant la journée, il devra s'arrêter, donc, de manger jusqu'au coucher du soleil. Car il sera concerné par son obligation. Par contre, il n'aura pas à rattraper ce jour, car il n'était pas encore musulman au début de la journée. Nous sommes bien d'accord. Alors, le deuxième, l'enfant jusqu'à sa puberté. L'enfant jusqu'à sa puberté, il n'est pas concerné par l'obligation du jeûne tant qu'il n'est pas pubère en raison de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la plume est levée pour trois personnes. La plume est levée pour trois personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à sa puberté, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc, vous voyez ce hadith. Ce hadith-là que nous venons de citer du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un fondement, donc c'est bien de le connaître. Pourquoi? Parce que ce hadith, il est un fondement dans le fiqh. Car il est valable dans plusieurs contextes concernant le fiqh. Ce n'est pas uniquement pour le jeûne, pour la prière aussi. Pour la prière aussi, la plume est levée pour celui qui dort, pour l'enfant jusqu'à sa puberté, et pour le fou également. Donc, vous voyez, c'est valable également pour la salat et pour d'autres, dans d'autres contextes concernant la jurisprudence. Donc, c'est bien de connaître, pour le talib al-ilm, l'étudiant en sciences, c'est bien de connaître ce hadith. C'est un fondement. Malgré tout, ses parents ou le tuteur doivent lui ordonner de jeûner s'il peut le supporter afin qu'il s'entraîne à cette adoration et qu'il soit habitué une fois pubère, comme le faisaient les pieux prédécesseurs. Comme le faisaient les vieux prédécesseurs. Alors nous, malheureusement, on voit les nouvelles générations aujourd'hui, non, ils sont trop jeunes, ils sont trop faibles, trop fatigués, ils ont besoin de Nutella. Je vais encore vous embêter avec le Nutella. J'ai rien de personnel avec le Nutella, hein, c'est la parabole image. J'en mange du Nutella d'ailleurs. Très rarement. Très rarement, parce qu'il y a des produits dedans qui sont pas, qui sont déconseillés, mais ça peut arriver. Donc malgré tout, ses parents ou tuteurs doivent lui ordonner de jeûner s'il ne peut le supporter afin qu'il s'entraîne à cette adoration et qu'il soit habitué une fois pubère, comme le faisaient les pieux prédécesseurs. En effet, les compagnons faisaient jeûner leurs enfants en bas âge, vous vous rendez compte? Et avant de se rendre à la mosquée, ils leur donnaient des poupées en laine ou autres, et lorsqu'ils pleuraient de faim, ils les faisaient jouer avec afin de les distraire. Donc ici, il y a une faïda. Ici, il y a une faïda. Retenez-la bien, cette faïda. C'est que les savants disent, ça fait partie de la méthodologie, si vous préférez, la sunnat d'Allah, la tradition d'Allah, et également la tradition du prophète, la méthodologie des salafs, c'est quoi? Comme on le voit ici. C'est que dans la religion de l'islam, lorsqu'on vous interdit quelque chose ou lorsqu'on vous prive de quelque chose, la sagesse dans la religion et la bienveillance, c'est de vous donner quelque chose d'autre en compensation, quelque chose de bien, quelque chose d'autre en compensation. Ça, c'est également une règle. Donc, si vous privez quelqu'un de quelque chose, essayez de lui donner quelque chose qui lui fait plaisir en retour. En retour. Ça fait partie de la sagesse. Tout le monde n'a pas ça. Hein. On a beaucoup de. Comment dirais-je? On a beaucoup d'ogres, des gens qui sont des ogres et qui privent les autres sans leur donner quelque chose. Bon, si c'est fait par ignorance, mais il faut apprendre la religion. Il faut apprendre la religion. De nos jours, beaucoup de parents n'accordent pas d'importance à cette pratique et n'ordonnent pas à leurs enfants de jeûner alors que ces derniers souhaitent le faire, en prétendant qu'ils agissent ainsi par miséricorde à leur égard. S'ils voulaient vraiment être miséricordieux envers eux, ils leur ordonneraient d'observer les obligations et leur inculqueraient les rites de l'islam. Et ces nobles enseignements des parents qui ne leur interdiraient de jeûner ou seraient laxistes à ce propos seraient injustes non seulement envers eux-mêmes, mais envers leurs enfants également. Donc des fois, par ignorance, par inadvertance, ou comme nous le dit Cheikh Al-Utaïmine ici, par laxisme, le shaitan peut nous faire croire, par un de ses stratagèmes, encore une fois, hein, le shaitan peut nous faire croire qu'on est dans un mode de compassion, un mode de bien, un mode de préservation, mais miskine, laisse-le. Mais en réalité, comme le dit le cheikh, le grand savant ici, c'est tout le contraire. C'est une erreur. Demandez à ceux lorsqu'ils étaient jeunes ou leurs parents les ont formés à la difficulté. Formés à patienter, formés à aller chercher l'eau à la fontaine, formés à la galère, formés à. Aujourd'hui, est-ce qu'il les remercie ou pas? Bien entendu, nous dit Cheikh Al-Utsaimin, il constate que leurs enfants n'arrivent pas à jeûner et que cela peut leur causer du tort. Alors, dans ce cas, s'il constate, hein, il n'y a pas de mal à ce qu'il interdisent de le faire. Donc ensuite, dit Cheikh Al-Utsaimin, la puberté est suivie par de trois façons. La puberté, elle se manifeste de trois façons. Cheikh Al-Utsaimin, et d'ailleurs ce sont les savants hein, dans la jurisprudence, nous disent la puberté se manifeste de trois façons. Donc normalement, vous avez tous le PDF par la grâce d'Allah et le puis la cause de notre frère et de notre sœur également qui nous ont fait parvenir les PDF. Donc, vous pourrez lire, la puberté se manifeste de trois façons. La première, les rêves, dans les rêves, hein, lorsqu'il y a le liquide que vous savez qui apparaît. Et selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit « Wa idha balagha al-atfalu minkum al-hulum falyasta'dhinu kama sta'dhana » Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer comme font leurs aînés. Tayyib. Et en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Les grandes ablutions sont obligatoires le jour du vendredi pour toute personne pubère. » Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. La deuxième, c'est l'apparition des poils, comme vous le savez, pour le jeune, hein, le jeune au niveau de ces parties. Récit de Aïcha, plutôt, pardon, Atiya al-Quraydi, lors de la bataille avec les Bani Quraïda, nous fûmes présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui étaient pubères et qui avaient donc les poils furent tués et les autres eurent la vie sauve. Rapporté par Al-Nasa'i, authentifié par Cheikh Al-Albani. Le troisième, donc la troisième alamet, c'est-à-dire signe de la puberté, c'est l'âge de 15 ans. C'est l'âge de 15 ans. Là, on vient de vous citer les trois signes de la puberté. Le troisième signe, c'est atteindre l'âge de 15 ans en raison de la parole de Omar, radiallahu anhu. Je me présentais au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car je voulais participer à la bataille de Uhud. Je souhaitais participer à la bataille de Uhud alors que je n'avais que 14 ans. Alors que je n'avais que 14 ans. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Salem me l'interdit. Dans une autre version, il estima que je n'étais pas encore pubère le jour de la bataille du fossé. Je me présentais à nouveau alors que j'étais âgé de 15 ans et il accepta ma participation. Il vit que j'étais pubère. Pardon. Ibn Nafi' a dit, je me présentais au calife Omar Ibn Abdelaziz et lui rapportais ce hadith. Il me dit, ce récit montre la différence entre l'enfant et le pubère. Il ordonna ensuite à ses administrés de donner une part du butin à tous ceux qui avaient atteint l'âge de 15 ans. À tous ceux qui avaient atteint l'âge de 15 ans. Naram. Faïb. Je me présentais. Naram. Les signes de ma puberté, de la puberté chez la fille. Les signes de la puberté chez la fille. Alors, juste une faïda au passage concernant les garçons, les filles. Ça, ce sont des signes caractéristiques de la puberté en général, à la base. Ça signifie qu'il y a des exceptions à la règle. Des gens qui sont pubères avant l'âge, comme on dit. Hein. D'accord, 15 ans, ça peut être avant, mais c'est la base. Les signes de la puberté chez la fille sont les mêmes que chez les garçons, avec en plus l'apparition des menstrues, comme vous le savez. Lorsque la fille constate l'apparition des menstrues, elle devient pubère. Et comme vous le savez, ce n'est pas forcément à l'âge de 15 ans, ça peut être avant. Et elle devient responsable, même si elle n'a pas encore 15 ans. Si un enfant devient pubère pendant une journée de Ramadan, alors qu'il jeûne, il n'aura qu'à terminer sa journée et n'aura rien d'autre à faire. Par contre, s'il mangeait, il devra se mettre à jeûner car il sera concerné par son obligation. Mais il ne devra pas rattraper ce jour car il n'avait pas à jeûner au début de la journée. Troisième, le jeûne n'est pas obligatoire pour le fou qui a perdu la raison. Alors, avant vous commencer. Concernant le fou, celui qui a perdu la raison. Vous savez, le terme fou, en réalité, nous, on a une définition du fou en français, mais en réalité, en arabe, c'est pas la même. En arabe, c'est pas que c'est pas la même, c'est que la langue arabe, comme elle est plus riche que la langue française, dans la langue arabe, lorsqu'on dit le majnoun, c'est quelque chose de vaste. Le majnoun, c'est quelque chose de vaste. Si on dit, par exemple, en français, tu es fou, c'est tu es fou, t'es un fou. Mais en langue arabe, si on dit anta majnoun, il y a plusieurs catégories qui englobent ce terme. Ça voudra dire, en gros, si on dit anta majnoun, ça voudra dire plusieurs choses. Le majnoun, celui qui est atteint de sorcellerie, par exemple. Le majnoun, celui qui a perdu la raison, qui est fou. Voilà, il y a plusieurs catégories. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour le fou. La deuxième faïda concernant le jeûne pour le fou, c'est que ce jugement qui est appelé majnoun, comme on l'a vu pour précédemment, concernant le hadith, c'est valable pour, pas uniquement pour le jeûne. Le fou, il est, c'est la traduction, un fou, hein, c'est ce qu'on traduit en français, mais on va dire, le majnoun, il est exempté de salat, par exemple. Le majnoun, il peut être exempté de beaucoup d'adoration, pas uniquement du jeûne. Donc ça, c'est important à savoir, parce qu'on fait des cours sur le jeûne et quelqu'un peut se demander, se dire, le majnoun. Je vais vous donner une autre faïda. Les gens qui sont vraiment majnoun, c'est-à-dire atteints par ce qu'on appelle le mal occulte. Alors la question, c'est une faïda pour vous, hein, pour tout le monde. La question a été posée aux savants, voilà, je suis atteint de mal occulte. Il y a des gens, qu'Allah les guérisse, amine, qui sont atteints de mal occulte et il y a des moments où ils ne peuvent pas jeûner parce que c'est le djinn qui prend le dessus. Et il y a des moments où ils sont conscients. Alors, quels sont les fatawas des ulama, le jugement ici? Les savants disent les moments où c'est le djinn qui prend le dessus, tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. Et le moment où tu es en pleine conscience, tu jeûnes, tu es responsable. Wallahu a'lam. Donc, ça, c'est une faïda au passage. Puisqu'on est en train de parler majnoun, et pour vous dire, j'ai donné un exemple parce que lorsqu'on dit majnoun, c'est pas uniquement majnoun le fou qui est dans un asile. Non. Le majnoun, plutôt dans la législation, nous ici, ça veut plus dire celui qui a perdu qui n'a pas sa raison. Donc il y a beaucoup de catégories qui entrent, hein, des gens qui sont malades psychologiquement, des gens qui n'ont pas toute leur tête, qui ont des maladies psychologiques, etc., etc. Donc voilà, c'est important de le savoir pour pas que les élèves, les tournois de l'aïd, pensent que ça s'arrête à une seule catégorie. Non. En vertu du hadith précédent, la plume est levée pour trois personnes. Son jeûne ne sera d'ailleurs pas valable car il est dénué de raison et est donc incapable de nouer l'intention d'adorer Allah. Et cette intention est condition indispensable pour toute adoration en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera récompensé en fonction de son intention. S'il perd la raison de temps à autre, il devra jeûner lorsqu'il est lucide. Vous comprenez? Et il ne sera pas tenu de le faire lorsqu'il sera conscient. Alors, j'ai encore une faïda pour vous. J'ai encore une faïda parce que nous, par la grâce d'Allah, on a étudié le chapitre du jeûne. Donc, dès qu'on se rappelle des faïdes qui sont importantes, et ben, hop, on vous les mentionne. Concernant, vous avez vu ici que la raison principale pourquoi le fou ne jeûne pas, c'est que parce que, justement, en parlant de raison, c'est pas parce qu'il n'a pas sa raison, il n'a pas sa lucidité. Alors, j'ai une faïda pour vous. Les savants disent que celui qui s'évanouit pendant toute une journée, le coma ou autre, il s'évanouit toute la journée pendant le ramadan, son ramadan ramadan n'est pas valable, il devra le refaire. Tandis que celui qui a dormi, lui, il n'a pas perdu la raison. Et il a l'intention de jeûner. Ce n'est pas pareil, celui qui a dormi, son jeûne, il est valable. Taïb. S'il perd la raison de temps à autre, il devra jeûner lorsqu'il est lucide et il ne sera pas tenu de le faire lorsqu'il sera inconscient. S'il perd la raison au milieu de la journée, son jeûne ne sera pas annulé. Au même titre que celui qui s'évanouit suite à une maladie ou autre, car il a noué l'intention de jeûner au début de la journée lorsqu'il était lucide, rien n'indique que son jeûne est invalide, surtout si on sait que sa folie le saisit des heures définies. Donc, comme vous pouvez constater, Cheikh Al-Uthaymeen a une autre position ici. Moi, je vous ai apporté une faïda. Vous le savez que dans la jurisprudence, il y a des divergences concernant les jeunes. Au moins, là, vous saurez qu'il y a une divergence. D'ailleurs, c'est un peu étonnant parce que Cheikh Al-Uthaymeen, il a été, comment dirais-je, il a commencé avec le madhab, l'école al-Hanbalite, et je ne suis pas sûr, il faut que je vérifie, mais il me semble que dans ce khilaf, c'est l'école al-Hanbalite qui mentionne ça, à moins que ce soit le contraire. Wallahu a'lam. En tout cas, vous avez la faïda, il y a une divergence. Il y a une divergence entre les savants. Et d'ailleurs, dans le fiqh, c'est rempli de divergences. Ibabil faïda. Alors, Inch'Allah ta'ala, sanaktafi bihad al-qadr. Aujourd'hui, on va se contenter de ça. On va le faire en deux fois. On va le faire en deux fois. Al-Majnoun, ou Al-Faqidou. Donc, on a parlé du Majnoun aujourd'hui. Al-Halimu alladhi balagha alayna wa saqata tamyizuhu fala yajibu alayhi as-siyam wa la it'am al-suqut. On s'est arrêté là. On va le mentionner, le marquer. Inch'Allah ta'ala, on continuera demain ce cours. Biznillah ta'ala. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici. Sinon, posez-les dans les groupes et demain, Inch'Allah ta'ala, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Nous avons mis à votre disposition le PDF. Voilà. Je regarde du côté des frères, il n'y a rien. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم